Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. Vous écoutez L'Arène, c'est l'émission d'info locale de Canal B qui s'apprête à débuter. Et au menu aujourd'hui, l'info du jour. 10 structures alertent la région Bretagne sur la déréglementation des OGM. Compte rendu du conseil municipal du mois de janvier à la ville de Rennes. Il y aura de la musique, dont une nouveauté. Une interview pour annoncer une projection débat autour du projet de recherche-création d'une doctorante rennaise, Estelle Laurent. Et puis, recommandation, un podcast de qualité en compagnie de Bretonne dans deux de ses derniers épisodes. Bienvenue dans l'arène. Allez, comme chaque jour où on commence l'émission d'information locale avec l'info du jour, aujourd'hui, dans un contexte de grogne, des agriculteurs qui réclament de meilleurs salaires et puis moins de normes, notamment environnementales. On en reparlera sans doute jeudi, journée de mobilisation de la profession, y compris ici en Ille-et-Vilaine. On reste quand même dans le dossier agriculture avec la Confédération Paysanne, le troisième syndicat agricole ancré à gauche, disons-le, et qui sera par ailleurs reçu mercredi par le Premier ministre Gabriel Attal dans le cadre du mouvement social en cours. Et sur ce point, tiens, le syndicat se dit prêt à rejoindre le mouvement si le mot d'ordre porte bien sur la rémunération. Si on avait des prix qui couvrent nos productions, on serait plus à l'aise pour faire face aux aléas climatiques et aux crises sanitaires, a expliqué Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération Paysanne. Structure, syndicat, qui fait partie d'un collectif signataire, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, signataire d'une tribune à destination de la région Bretagne, à un vœu que la région renouvelle en fait son engagement à rester un territoire sans OGM. Cette promesse, elle date de 2004. Le conseil régional était alors présidé par Jean-Yves Le Drian, un engagement politique qui, à l'époque, avait permis de créer un rapport de force pour aboutir à la loi d'interdiction de la culture des OGM transgéniques en France, lit-on dans cette tribune. Aujourd'hui, sous la pression des multinationales de la semence et de l'agrochimie, l'Union européenne s'apprête à déréglementer les OGM, d'abord en les renommant NTG pour nouvelles techniques génomiques, mais aussi en permettant leur culture en plein champ, en revenant sur le principe de précaution et d'étiquetage auprès des consommateurs. Ces OGM, ils sont tolérants à 1, 2 ou 3 herbicides, et donc pour la Confédération Paysanne ainsi que pour 9 autres signataires, on peut citer les faucheuses et faucheurs volontaires d'OGM de Bretagne ou encore Terre de Liens Bretagne, eh bien pour eux les choses semblent claires, je cite « Ce n'est pas la souveraineté alimentaire des peuples ni les intérêts des agriculteurs qui motivent cette déréglementation, mais bien des protocoles de culture intégrés contrôlant la semence et l'usage de pesticides des synthèses. » En clair, ces OGM, ils rendent les agriculteurs dépendants aux produits phytosanitaires. Des pesticides dont il faut redire l'impact négatif dans une région qui en paye un lourd tribut sur le plan environnemental et sanitaire. Fin de citation. La demande des 10 signataires de cette tribune, à retrouver entre autres sur le site ille-et-vilaine.confédérationpaysanne.fr, eh bien c'est la suivante, que la région Bretagne demande au gouvernement et au Parlement européen de refuser l'adoption de ce nouveau règlement et qu'elle s'engage aussi la région à mobiliser l'ensemble des acteurs pour faire de notre territoire un pôle européen, leader de la biodiversité cultivée. Allez, après cette info du jour, place à un compte-rendu du dernier conseil municipal à la ville de Rennes. Et c'est parti pour un retour sur le conseil municipal du lundi 22 janvier à la ville de Rennes. C'était le premier de l'année, toujours en présence des 61 conseillers et conseillères municipaux de la ville de Rennes. Et comme à chaque fois, ça se passe à l'hôtel de ville à partir de 17h. Cette fois, 29 points étaient inscrits à l'ordre du jour pour une séance qui a duré près de 4 heures. Un mot pour commencer sur l'arrivée d'un nouveau conseiller municipal dans le groupe d'opposition Renaissance à Révélé-Rennes. Il s'agit d'Henri Noël Ruiz, ingénieur urbaniste et formateur. Il prend la place de Sandrine Caroff-Urfer qui démissionne pour des raisons personnelles et ce qui signe là un quatrième départ dans le groupe depuis le début du mandat. Tout conseil municipal commence avec une parole laissée sur demande préalable aux habitants. On a ainsi entendu le comité rennais France-Palestine Solidarité en demande de prise de position forte de la municipalité pour dénoncer la situation actuelle dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Une pétition intitulée « Pour une paix juste et durable au Moyen-Orient » a d'ores et déjà été signée en ce sens par 800 rennais et rennaises. Et puis c'est l'association Colombier, etc. qui s'est emparée du micro, une asso qui rassemble des parents d'élèves du groupe scolaire Colombier. Ces derniers, ils sont inquiets des nuisances dues à un chantier à proximité de l'école et aux travaux de rénovation annoncés dans cette même école, cette fois en 2025. Extrait de l'intervention, puis de la réponse apportée par l'adjointe à l'éducation, Gaëlle Rougier.
Pour vos équipes, ces travaux de rénovation devront s'accompagner du déménagement de l'école maternelle vers l'école élémentaire, sans que les impacts au niveau des locaux et de l'organisation de l'école ne soient pris en compte. Une centaine d'enfants de moins de 6 ans, dans une école élémentaire déjà trop à l'étroit, sans salle de sieste, des sanitaires vétustes et inadaptés aux tout-petits, des rythmes scolaires complètement différents. La cohabitation entre petits et grands s'annonce donc compliquée et générera des difficultés supplémentaires qui s'ajouteront à celles déjà évoquées. Les conditions de travail des personnels de l'éducation nationale et de la ville de Rennes, qui sont pourtant pleinement mobilisés pour la réussite de nos enfants, vont également se dégrader et aggraver les tensions que le monde scolaire subit déjà de plus en plus et conduisent à rendre l'école publique moins attractive. Nous reconnaissons les efforts considérables réalisés par la ville de Rennes en maintenant un budget à la hausse pour l'éducation. Nous sommes également persuadés qu'il s'agit d'une nécessité pour l'avenir de nos enfants qui sont les citoyens de demain. Cependant, le sentiment de délaissement puis l'absence de concertation sur les scénarios nous mène malheureusement à la conclusion amère que tout n'a pas été mis en œuvre pour corriger les inégalités sociales et économiques indéniables. Force est de constater qu'au contraire, elles vont s'aggraver.
L'école Colombier est la priorité de la ville sur cette deuxième partie de mandat, avec la rénovation thermique aussi de quatre autres écoles, notamment Clémenceau, Gantel, Jean Moulin et Duchessanne. Pour la rénover, l'école, nous n'avons d'autre choix que de la faire ce qu'on appelle en site occupé, mais comme on le fait pour toutes les autres écoles. La direction éducation enfance a fait des propositions, un certain nombre de propositions d'aménagement, des dortoirs, de création aussi de nouveaux sanitaires et de réaménagement des espaces dans l'élémentaire pour pouvoir justement accueillir les enfants de maternelle. Par ailleurs, la direction des équipements publics accompagne actuellement l'équipe enseignante et aussi les agents sur une expérimentation de mutualisation des espaces avant et pendant les travaux. J'ai vu les esquisses, c'est vraiment un travail de design de service qui part vraiment des usages, qui est innovant et qui mérite vraiment d'être porté à votre connaissance. Et c'est un travail qui vous sera présenté dans les semaines qui viennent, pour justement réfléchir à la façon dont on peut aménager les espaces pour la cohabitation des grands et des petits que vous évoquez, mais par exemple pour avoir des espaces zen, des espaces de retrait pour les enfants à besoins spécifiques qui en auraient besoin, par exemple. Tout ça pour dire que j'entends et la lassitude, enfin, l'impatience et aussi vos inquiétudes, mais que nous sommes mobilisés pour cette école. Et tout comme aussi la question sociale que vous évoquez à juste titre, avec un accès aussi au service du projet de réussite éducative pour de l'accompagnement individuel d'enfants en fragilité éducative ou par exemple pour de la traduction pour des familles qui auraient besoin de traduction pendant les rendez-vous avec les enseignants ou la direction.
Les interventions citoyennes, elles sont toujours suivies de prises de parole des différents groupes politiques. On le redit, il y en a 7. Le groupe socialiste qui, avec le groupe écologiste Génération, le mouvement radical et le groupe communiste forment la majorité. Et dans l'opposition, on retrouve le groupe Renaissance Révéler Rennes et le groupe d'Union de la droite Libre d'agir pour Rennes qui ont régulièrement des positions assez similaires sur pas mal de sujets. Là, il a été question lors de ce temps de propreté à Rennes, de la loi immigration, de la panne sur la ligne B, évidemment. On écoute Carole Gandon pour le groupe Renaissance Révéler Rennes.
Évidemment, Madame la maire, vous n'êtes pas responsable ni coupable, si j'ose dire, de la survenance de cette succession de problèmes techniques sur la ligne B du métro. Néanmoins, nous avons été consternés par l'absence de réponse précise et par le manque de transparence dont vous avez fait part lors de la conférence de presse sur la panne qui donc impacte la ligne B. Au vu de la gravité de la crise, deux pannes majeures en quelques semaines, un système de transport paralysé à l'échelle de la ville, Votre communication en la matière devrait être fréquente, claire et précise. Or, force est de constater qu'elle s'est faite rare, erratique et approximative. Après 1,3 milliard d'euros de travaux et 5 ans de retard, dont les 6 derniers mois à cause d'une pièce, un palais de guidage, et après seulement un peu plus d'un an d'exploitation, une panne d'un mois à cause d'une autre pièce en cours d'expertise, et une autre d'au moins un trimestre à cause d'une troisième pièce, mais dont l'ensemble sera finalement remplacé, le discours tenu inquiète. Les mises au point feraient partie du jeu de l'innovation ferroviaire. Alors ces 12 euphémismes ne sont que le cache-sexe d'une situation qui est absolument critique. L'ensemble du plan de circulation de Rennes a été adapté à une ligne de métro qui est aujourd'hui à l'arrêt et dont la date de remise en service n'est pas garantie. Engorgement de la circulation, dégradation de la pollution de l'air, conducteurs et conductrices victimes d'agressions, usagers épuisés. Or, sur tous ces sujets, Madame la Maire, votre parole s'est faite extrêmement rare. Vous êtes, de fait, bien bavarde sur tout ce qui relève de l'action du gouvernement, mais bien discrète sur ce dossier qui peut-être ne vous intéresse pas vraiment.
Cette partie du conseil municipal, elle s'est terminée sur une prise de parole assez longue de la maire socialiste Nathalie Appéré, mise au point à destination du conseiller d'opposition Charles Compagnon sur le sujet de l'enquête en cours pour harcèlement moral et sexuel au CHU de Rennes. Pour essayer de faire simple, Charles Compagnon s'appuie sur un article de Paris Match pour soulever la question de la responsabilité de la maire en tant que présidente du conseil de surveillance de l'hôpital. Extrait.
Nous connaissons la loi HPST qui régit la gouvernance hospitalière. Et nous ne pouvons pas faire semblant, vous ne pouvez pas faire semblant que cette loi prévoit que le maire de la ville-centre puisse présider le conseil de surveillance et qu'elle prévoit aussi que cette présidence de conseil de surveillance ne soit pas une fonction exécutive. Laissez penser que les responsabilités qui sont les miennes au CHU en tant que présidente du conseil de surveillance seraient identiques à celles qui sont les miennes dans cette assemblée en tant que maire, c'est juste complètement aberrant au regard de la réalité de la gouvernance hospitalière. Et faire croire le contraire est, que vous le vouliez ou non, une manière d'essayer de salir, d'amalgamer. Les réponses sur le fond, elles sont apportées par le directoire, par la direction générale. Et que les choses soient claires, il ne m'appartient pas de gérer les ressources humaines du CHU. Ce n'est pas le rôle qui est le mien, encore moins sans doute de réguler ce que peuvent être un certain nombre de conflits à l'intérieur de l'établissement. Alors à défaut de lire la loi HPST, vous lisez la presse. Mais vous la lisez manifestement de manière partiale ou imparfaite parce que vous faites référence à un article paru dans Paris Match qui ne me mentionne à aucun moment Monsieur Compagnon. Pourquoi? Bon, écoutez, ça va bien. Vous n'avez pas la parole, Monsieur Compagnon. Mais c'est quand même incroyable cette manière de faire là.
On se lance pour de bon dans le conseil municipal du 22 janvier avec le point numéro 2, des nouvelles du futur pôle commercial du Blône qui investira la place Jean Normand d'ici quelques mois. Les premiers commerçants vont ouvrir en Traville avril et septembre l'aménagement du lieu durera jusqu'en 2026. On est à deux pas du métro Triangle, également du conservatoire, avec un pôle qui remplacera les trois petits centres commerciaux, on les cite, Sainte-Élisabeth, Torigné et Landry. Donc au sud-est de Rennes. Les conseillers municipaux se sont penchés lundi sur la nature des futurs commerces qui vont bientôt commencer à ouvrir. Des commerces de proximité, banques, supermarchés, pharmacies, restaurants, boulangeries, le plus important, mais aussi bouchers, coiffeurs, opticiens, un laboratoire d'analyse. Je laisse Marc Hervé, premier adjoint à l'urbanisme, nous dire un mot sur l'avenir des trois centres commerciaux qui se retrouveront désaffectés.
Commencer par peut-être Torigné. Torigné deviendra une cité artisanale avec une dizaine de cellules qui sera composée donc de 1 200 m², un budget porté par la métropole à hauteur de 3 millions d'euros sous le statut de pépinière d'entreprise dans le cadre du développement économique. Pour ce qui concerne le Landrel, alors vous avez une vue sur cette diapositive qui est une faisabilité. Tout cela pour vous indiquer qu'on aura des logements plutôt en accession sociale pour continuer à rétablir l'équilibre du peuplement du Blône avec cette attention donc à produire des logements en accession avec des locaux associatifs au rez-de-chaussée pour permettre la relocalisation notamment des associations qui étaient historiquement sur l'Andrel, qui le temps des travaux et de la démolition qui devraient intervenir d'ici 2025-2026 sont repositionnés en proximité. Et enfin, sur la polarité Sainte-Élisabeth, vous indiquez qu'on est là dans le cadre d'une contrepartie à Action Logement qui est un des financeurs de ces opérations de renouvellement urbain et donc on aura à travailler des logements qui seront soit en accession, soit en locatif intermédiaire pour permettre le logement des salariés. Avec, et on ne l'exclut pas, d'avoir peut-être une ou deux cellules commerciales pour permettre un maillage de toute proximité. On sait qu'aujourd'hui, on a une boulangerie qui fonctionne très bien sur ce lieu de Sainte-Élisabeth et on a peut-être à réfléchir à ce que seraient demain ces éventuelles cellules commerciales sur ce site de Sainte-Élisabeth.
Point numéro 3 inscrit à l'ordre du jour, il s'agit du renforcement de la stratégie de végétalisation pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. La réflexion elle a été lancée en 2020 et une vingtaine de lieux supplémentaires ont été plus récemment identifiés en centre-ville de Rennes pour connaître donc une opération de végétalisation dans les 2 années à venir. Au sein de cette démarche, la partie la plus visible concerne sans doute la plantation de grands arbres, plus 300 arbres en centre-ville. C'est l'objectif qui devrait être atteint d'ici 2026, 500 pour 2030. Et à l'échelle de la ville, ce sont 30 000 arbres qui devraient être plantés. Le conseiller municipal adjoint délégué à la biodiversité, c'est Didier Chaplon, a par ailleurs dévoilé des images des quais entre République et la place de Bretagne où seront plantés pas moins de 200 arbres. Des annonces qui ont fait réagir le groupe d'union de la droite Libre d'agir pour Rennes. D'abord Charles Compagnon, puis Loïc Lebrun, on les écoute.
Au vu d'un dernier épisode de plantation d'arbres, et je veux parler, cher Didier, de plantation d'arbres de la rue de Dinan, on peut s'interroger légitimement sur le fait que cette stratégie de végétalisation renforcée soit au service, intentionnellement ou non, d'une autre stratégie, celle de la suppression des places de stationnement. Alors le cas, très rapidement, quel est-il ? On est au bout de la rue de Dinan, à l'entrée du parc des Tanneurs, entrée de la prairie Saint-Martin. Et là, on a des suppressions de places de stationnement qui étaient, je dirais, utilisées par les professionnels et les commerçants pour planter un arbre. Vous avez parlé de concertation. Les personnes ont été plus ou moins mises devant le fait accompli. Et on peut se satisfaire aujourd'hui, je crois. Alors, j'ai lu la presse. Je pense que j'ai eu la bonne presse. Hein, j'ai lu la presse quotidienne régionale. Donc, voilà, tout va bien. Qui dit qu'après concertation... Après concertation, le projet a été revu avec les professionnels et les commerçants. Donc vous me confirmerez si ma lecture et l'article étaient bons. Ce qu'on demande, c'est que dans ces plans-là, et à partir du moment où on va impacter des places de stationnement utilisées pour des commerces ou des professionnels, j'insiste professionnels, que la concertation soit bien en amont et pas 15 jours avant... avant que les gens arrivent pour dire qu'ils vont faire des travaux.
Arrêtez de dire qu'aujourd'hui, on voulait planter un arbre, vous ne vouliez pas embêter les gens. Ce qu'on vous reproche, Madame Faucheux, c'est que vous avez, en faisant ça et en ne prévenant pas les commerçants, vous déstabilisez profondément leur entreprise. Que vous vouliez faire une évolution. Mais si, Madame Faucheux, vous n'avez jamais dirigé une entreprise ou un commerce. Alors arrêtez de sourire et de hocher du à la tête. Bien sûr, madame, quand vous allez voir un commerçant, pour la plupart de son chiffre d'affaires, ce sont des gens qui s'arrêtent, ils vont acheter, on n'est pas là pour si c'est un bon achat ou un mauvais achat, un paquet de cigarettes, un journal, ils s'arrêtent et ils repartent. Il n'y a plus de place, ils ne peuvent pas faire. Vous déstabilisez le chiffre d'affaires d'une entreprise. Alors que vous preniez ce choix d'investissement public, vous avez le droit. Mais ce qu'on vous demande, ce n'est pas de les prévenir début janvier pour des travaux fin janvier. C'est d'aller les voir en leur disant, bah, écoutez, nous on prend une décision, on vous informe en janvier, ça va bouger en mai, ça va bouger en juin. Et là, le commerçant, effectivement, va pouvoir prendre des disponibilités. Vous y allez, la fleur au fusil, on dit, oh, bah là, nous on va te changer tout ça. Ah ben non, vous êtes fait taper sur les doigts, ils ont été râlés, et puis vous avez eu peur, donc vous êtes revenu en arrière. Tant mieux pour eux.
On passe rapidement sur le rapport d'orientation budgétaire qui a occupé un temps important du Conseil, puisqu'on y reviendra dans le détail en février lors d'une séance purement budgétaire. Point numéro 9, rapidement, c'était l'annonce d'une nouvelle dénomination de voie, une promenade du quartier Poterie qui portera le nom de Samuel Paty, cet enseignant mort du terrorisme islamiste en 2020. Une annonce qui a fait l'unanimité dans la salle du Conseil, c'est pas toujours le cas. Et je vous laisserai sur le point numéro 10, la sécurisation d'un nouveau rond-point pour les cyclistes rennais. C'est celui qui est situé à l'intersection des boulevards de Vitré et Charles Péguy avec la rue Danton et l'avenue Charles Foulon. Alors on est au nord-est du centre-ville de Rennes et sur ce rond-point qui a été retenu par la municipalité, un aménagement dit à la hollandaise va être réalisé entre 2024 et 2025, comme sur le rond-point des Gailleuls si vous le pratiquez celui-ci. La conseillère municipale adjointe déléguée à la mobilité Valérie Faucheux a profité de ce vote pour rendre hommage à un Rennais cycliste et tué par un automobiliste il y a de ça quelques jours.
Je terminerai mon intervention en souhaitant évoquer la dramatique actualité et ainsi témoigner au nom de tout notre conseil municipal à la famille de Jérôme Ambroster ainsi qu'à tous celles et ceux qui le connaissaient notre profonde tristesse et nos plus sincères condoléances. Sa mort brutale, fauchée par un conducteur ivre sous l'emprise de stupéfiants, sans permis, multirécidiviste, qui, à grande vitesse, a franchi un feu rouge. Cette mort est d'autant plus choquante que nous le savions fervent défenseur du vélo, dans sa pratique personnelle, mais aussi auprès de ses collaborateurs, en suscitant le développement du vélo dans leur pratique.
Ces séances du conseil municipal à la ville de Rennes, elles sont à retrouver en replay sur le site métropole.rennes.fr et puis aussi sur la page YouTube de Rennes, Ville et Métropole. Prochaine séance prévue dans un mois, même pas, le 19 février, ce sera toujours à 17h. I'm not afraid of the dark. Sleepers Bell avec le morceau New. Et justement, c'était New, c'était une nouveauté musicale repérée par Yann, notre programmateur ici à la radio, à retrouver sur un EP Humarel, c'est sorti le 8 janvier sur le label Angel Tapes, une réédition en fait du premier EP de ce groupe, Sleepers Bell, qui est un duo folk originaire de Chicago. Vous écoutez l'Arène, c'est l'émission d'information locale de Canal B, vous êtes sans doute branché sur le 94.0 ou peut-être connecté en ligne sur notre site canalb.fr, un site où vous pouvez retrouver, normalement bien rangé, les podcasts de l'ensemble des émissions réalisées par des salariés mais aussi par des bénévoles. Et ils sont nombreux. On poursuit l'émission du jour avec une interview. Suzanne Le Maréchal et Estelle Laurent, bonjour.
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 Je vous présente Suzanne, vous avez fondé l'association Thèse en Images, une asso de vulgarisation scientifique qui organise un événement jeudi 25 janvier, une mise en lumière de votre projet de recherche. Estelle, vous êtes vous doctorante à l'université à Rennes 2. Alors Suzanne, vous étiez déjà venue présenter Thèse en Images à Canal B, c'était en 2021. Votre objectif, c'est de rendre accessible la recherche universitaire au grand public grâce à la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans pour vous et pour votre projet?
Eh bien, plein de choses. Premièrement, on a sorti une série documentaire de 7 épisodes qui parle de la résilience alimentaire, qui était en partenariat avec les Greniers d'Abondance, qui est une association de doctorants de Lyon. On a fait aussi un court-métrage sur le taekwondo pour les aveugles avec l'agrocampus de Rennes. Et puis depuis l'année dernière, on sort plein de petites vidéos tous les jeudis, donc là plutôt sur nos réseaux sociaux comme Instagram, de doctorants qui racontent leur thèse en 5 minutes. Et voilà, c'est des sujets un peu plus larges.
Vous parlez surtout de travaux de recherche en sciences humaines, mais dans la galerie de portraits là, que vous évoquez, donc plutôt sur des formats 5 minutes, vous explorez les champs de l'urbanisme, de la démocratie locale ou encore des migrations, de la médecine. Ça a été facile justement de trouver des doctorants ou jeunes docteurs partants pour partager leurs travaux de recherche, ou il a fallu aller les convaincre?
Les convaincre pas trop, c'est réussir à les contacter le plus difficile, mais une fois qu'on en connaît un qui le bouche à oreille marche plutôt bien. En fait, les doctorants sont quand même relativement demandeurs de parler de leurs recherches et ont besoin de ce genre de médias pour pouvoir en parler et toucher du monde. En fait, c'est ça aussi qui est très frustrant pour eux.
Vous auriez pu faire de la vulgarisation par le média radiophonique, par des articles. Vous avez choisi de le faire en vidéo. Ça permet quoi? Le propos est simplifié. Surtout, c'est incarné. On voit des têtes. Ça fait moins peur que de se lancer dans un papier, dans un article.
Ben, c'est aussi, je pense, parce qu'aujourd'hui, clairement, les vidéos, c'est très, très consommé. Et que je pense que c'est un moyen de toucher le plus de gens possible, et notamment les jeunes.
On arrive donc à cet événement qui est organisé le jeudi 25 janvier à 18h. L'association Thèse en Images organise une soirée projection débat. Ça se passe au BAM, le bâtiment à modeler, qui est en fait installé dans l'ancienne antipode dans le quartier Clonay. La soirée, elle commencera à partir de 18h. Nétaline Gore, c'est un projet de recherche création que vous avez mené, Estelle Laurent, direction donc le Sénégal. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom de la pièce de théâtre en l'occurrence?
Oui, tout à fait.
On plante le décor. Ce projet-là que vous menez, il prend place donc au Sénégal, en fait, dans un quartier de la capitale.
C'est même un village, en fait, Ngor, à la base. Au départ, c'est un village, maintenant, c'est aussi une commune. Mais moi, ma recherche est vraiment axée d'abord sur ce village et sur toutes les transformations qu'il y a dans ce village-là.
Qu'est-ce qui vous a emmené là-bas? C'est quoi le point de départ?
Oh, le point de départ. Déjà, j'ai fait un mémoire au départ au Sénégal sur autre chose, parce qu'en fait, ma recherche, elle porte sur le rapport spirituel à l'espace et au territoire, et comment ça se traduit dans l'espace, comment nous on peut le voir, et aussi comment on peut, enfin à travers les pratiques artistiques, et comment on peut utiliser les pratiques artistiques pour le voir. Et donc en me baladant dans la ville, hein, déjà au départ, je vois des graphes religieux, spirituels, etc. Donc ça m'a amené à me poser beaucoup de questions sur qu'est-ce que traduisent ces graphes, pourquoi ils sont là et quelle est l'intention.
De quelle religion on parle en l'occurrence?
Alors, on parle de l'islam majoritairement. Moi notamment dans Angor, c'est surtout l'islam, mais c'est pas que l'islam, parce que c'est aussi les religions pré-islamiques avec la communauté Lébou qui est très présente à Angor.
Ce territoire que vous étudiez, il vit depuis un moment maintenant une transformation importante. Alors justement, est-ce que vous arrivez à situer depuis quand et de quelle transformation on parle ? Elle est un peu double, il y a à la fois le tourisme et l'urbanisme, l'urbanisation.
Alors, la transformation sur le territoire à Dakar est là depuis très longtemps, mais moi, celle qui va en tout cas s'interroger à travers la pièce de théâtre jeudi, c'est notamment liée à la sururbanisation de Dakar et du coup des territoires environnants. Ngor est vraiment collé à Dakar. Et donc oui, donc c'est des transformations liées bah, à une nouvelle économie qui est mondiale dans tous les cas, au tourisme et une mondialisation où bah, du coup il y a des nouveaux arrivants, mais qui sont internes soit au Sénégal ou des nouveaux arrivants extérieurs qui arrivent vers Ngor. Et donc bah, ça crée des transformations dans le paysage, dans le rapport communautaire, social aussi dans l'espace et puis même sur les gouvernances qui vont être modifiées à travers ce rapport-là.
Et vraiment sur le thème de la spiritualité, de quelle façon est-ce que ça peut venir bouleverser certaines choses ?
Eh ben, c'est les questions que je me pose encore, justement. Et du coup, en fait, ce que je vais questionner, c'est déjà dans le paysage, qu'est-ce qu'on va voir modifié ou non ? Est-ce que ben, le fait que les pratiques artistiques, donc, comme le graphe, la musique, le chant, etc., dans l'espace public, est-ce qu'ils sont plus ou moins présents qu'avant ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Et du coup, ça, ça va déjà nous permettre de voir quel type de transformation va y avoir par rapport à ce rapport spirituel. Ensuite, il y a aussi des aménagements qui sont faits, donc qui empêchent aussi un certain rapport spirituel à l'espace, à la mer, etc. Et donc ça, ça fait partie de ma recherche, de ce que je vais questionner. Et donc, comme je disais, on utilise aussi la pratique artistique justement pour questionner ça et pour amener les gens à parler de ce ressenti, de ces représentations-là aussi, quoi.
Je reprends le descriptif de l'événement là qu'on annonce qui a lieu jeudi à Rennes. Entre l'expansion urbaine et l'explosion du tourisme, des habitants se retrouvent dépossédés de leurs terres mais aussi de leur principale source de revenus, à savoir la pêche, et se retrouvent à devoir travailler dans les hôtels-restaurants qui ont envahi la côte. Un projet de thèse, ça peut être long, la durée est variable selon les étudiants-chercheurs. Vous en êtes où là, ou au moment où on se parle dans votre projet de recherche ?
Je suis au milieu de ma troisième année. Mais presque au milieu de la thèse aussi, quoi.
Et ça implique quelle présence sur le terrain là-bas au Sénégal ? Vous faites des allers-retours, ça marche comment ?
Ouais, bah là pour le moment, je suis allée une première fois 3 mois, donc faire un peu de terrain exploratoire, justement essayer de comprendre l'environnement. Puis ensuite, 9 mois, c'était vraiment de l'action avec les personnes habitantes de Ngor. De l'action et de la création. Et puis bah, j'y retourne là pendant 3 mois, au mois de mai, justement pour présenter bah, le film qu'on prépare et puis toutes les activités qu'on a fait avant.
Les questions que vous vous posez, ce sont celles-ci. Comment les habitants de Ngor vivent-ils cette transformation de leur territoire ? Comment s'adapter au décalage culturel mais aussi spirituel avec les nouveaux arrivants là qu'on a évoqués, qu'ils soient de passage ou permanents ? Comment préserver une culture ancestrale dans un contexte de mondialisation ? Et ces questions, vous avez choisi de les amener par le biais du théâtre. Pourquoi ? C'était peut-être aussi déjà dans votre cursus avant le projet de thèse ou...
Pas du tout, c'était pas dans mon cursus, c'était... Plutôt, il y a alors je vais en même temps faire la pub de cette association à Rennes qui s'appelle Cœur Esquem et avec qui j'avais participé au LAP, donc Laboratoire Artistique Populaire. Et donc, c'est vraiment en participant à ces 6 mois de laboratoire de LAP que j'ai découvert qu'en fait, la pratique artistique nous permettait de dire énormément de choses, de prendre confiance aussi pour dire les choses. Et c'était un média qui permettait une interaction qui est... peut-être plus douce, je sais pas, mais en tout cas une interaction avec des acteurs, comme des acteurs gouvernants, comme d'autres habitants, qu'on peut ne pas avoir l'occasion autrement que par la pratique artistique. Et juste pour préciser, ces questions-là qui sont posées, comme vous l'avez très bien dit, c'est des questions qui sont posées à travers la pièce de théâtre. Après, dans la thèse, c'est vraiment des questions plus larges, pas uniquement sur la transformation du territoire, mais vraiment sur ce que disent ces identités et ce rapport spirituel au territoire. Et voilà. En fait, la pratique artistique, moi, c'est à la fois un outil pour parler avec les gens et puis pour qu'ils parlent avec d'autres personnes, d'autres acteurs. Et en même temps, c'est un objet de recherche dans le sens où je vais aussi observer ce qui se passe aussi déjà dans l'espace public à travers les pratiques artistiques.
Nathalie Ngor, c'est le nom du film que le public va pouvoir découvrir là cette semaine à Rennes. C'est aussi le nom donc, de la pièce de théâtre issue de ce projet de recherche création. Ça a pris la forme d'atelier. On raconte un peu à quoi ça a ressemblé le montage là, de cette pièce.
Ouais, c'était ça en fait, c'était des ateliers. pendant 2 semaines, donc on a travaillé avec Kermam, qui est un collectif culturel, parce qu'ils font pas que du théâtre et qui est très présent à Angkor. Et on a travaillé avec eux et les habitants, donc il y avait, on va dire, une dizaine d'habitants qui étaient présents, qui n'avaient jamais fait de théâtre, et puis 5 personnes qui en avaient déjà fait, qui faisaient partie de ce collectif. Et donc, pendant 2 semaines, moi, je suis juste arrivée en leur disant, bon, bah voilà, racontez-moi votre territoire, racontez-moi les enjeux spirituels sur le territoire. Et pendant 2 semaines, ils ont travaillé à vraiment... qu'est-ce qu'ils avaient envie de dire. Enfin, c'était des petits formats de discussion au départ, puis bah, comment on le dit, comment on le met en scène. Et voilà, donc on a fait ça sur 2 semaines. Et puis au bout de ces 2 semaines-là, on a créé un festival aussi, où il y avait plusieurs ateliers qui étaient restitués, et donc la pièce de théâtre aussi.
Il y a combien de jeunes qui ont participé, puis avec quels âges à peu près?
Eh bien, la plus jeune avait 8 ans. Et la plus âgée avait autour de la trentaine, donc c'était essentiellement des jeunes, mais sinon globalement ils avaient entre 18 et 30 ans quoi.
Le résultat, il est à découvrir donc dans un film qui sera projeté jeudi 25 janvier à 18h au BAM, le bâtiment à modeler dans le quartier Clonay à Rennes, une pièce de théâtre. Donc ça dure 20 minutes à peu près, et il faut bien distinguer donc ça d'un futur documentaire, plutôt pour suivre votre projet de recherche-création qui là sera projeté à l'automne. Je ne sais bien ça.
Sur Rennes, oui, il sera normalement disponible à l'automne. On aura plusieurs projections et on vous tiendra au courant avec plaisir.
Et alors, comment est-ce qu'on peut raconter la collaboration donc, entre Thèse en Images et puis votre projet, Estelle Laurent? Comment vous avez entendu parler de Thèse en Images? Quel est l'intérêt, pendant votre thèse, d'être suivie par quelqu'un qui filme?
Déjà, comment j'ai entendu parler de Thèse en Images? En allant voir le film de Suzanne, qu'elle avait réalisé aussi pour son mémoire de master.
Où il était aussi question d'art et de voyage.
Tout à fait. C'était sur des artistes de rue en Amérique du Sud. Donc ouais, c'est vrai qu'on se reconnaît aussi beaucoup là-dessus. On a des intérêts communs.
Et voilà. Et donc moi, ça m'a tout de suite parlé. Après, je n'avais pas encore le projet de thèse. Et puis quand j'ai eu le projet de thèse, je me suis dit, bon, bah, tout simplement, comment j'ai envie de montrer ce projet-là à mes parents ou à ma famille, à des personnes qui ne vont pas forcément lire un manuscrit ou quoi. Et donc, ça me paraissait un peu évident de travailler avec Thèse en Images à ce moment-là.
Ce que je ne vous ai pas demandé, Estelle, c'est le champ dans lequel vous étudiez.
Je suis dans le champ de la géographie sociale.
Le public, il pourra donc découvrir ce premier film, donc sous forme de pièce de théâtre d'une 20aine de minutes, lors d'une projection jeudi. Ça se passe au bâtiment à modeler dans le quartier Clonay à Rennes. Il y aura une projection, mais ensuite, c'est souvent le cas, un débat et une jam session. Alors, qui sont les musiciens qui viennent?
Pour le moment, on en a 4 ou 5. On laissera le public découvrir, mais ça restera dans de la musique d'Afrique de l'Ouest. On aura de la kora, du djembé, un peu de rap. Voilà, on verra.
Et peut-être terminer avec un mot, Suzanne Le Maréchal, sur la recherche de nouveaux doctorants ou jeunes docteurs intéressés par votre démarche de vulgarisation scientifique. On peut toujours vous contacter, que ce soit pour des formats plus courts ou longs, si on est chercheur.
Oui, tout à fait. Alors, on est très facilement contactable sur nos réseaux sociaux. On a des mails sur le site internet. On peut proposer de participer, bien sûr, au Tu fais une thèse, qui est la série de courtes vidéos. Mais également, on propose d'adhérer à l'association, parce qu'on commence à devenir un réseau de doctorants qui ont envie de vulgariser, qui ont envie de faire des choses ensemble. On propose des ateliers pour les jeunes dans les maisons de quartier. Voilà, il y a plein de choses qui se passent dans cette association, donc n'hésitez pas à venir la découvrir.
Le site internet, c'est thèseenimages.org. Il faut venir avec un financement. Ça marche comment pour un documentaire plus long?
Chaque documentaire en recherche de financement à chaque fois. Donc on va dire que les gros long format, comme avec ce qu'on fait avec Estelle, ça a été de la recherche de financement pendant plusieurs mois, donc avec l'Université de Rennes 2. Il y a également la ville de Rennes, il y a l'Académie de Rennes, on a eu une fondation, enfin voilà, on a plusieurs financements qui nous aident à réaliser ces grands documentaires. Pour ce qui est de faire une thèse, on demande aux doctorants qui participent d'adhérer à l'association, donc on est sur 15 euros par an, c'est voilà. Et puis ensuite, on est ouvert aux dons et aux partenariats, voilà, bien sûr, on essaye de se développer un petit peu.
le message est passé. Je vous représente toutes les deux. Suzanne Lemaréchal, vous êtes la fondatrice de Thèse en Images, cette association de vulgarisation scientifique qui organise donc un événement jeudi au BAM, le bâtiment à modeler, à partir de 18h, et avec la projection d'un film sur votre projet de recherche création. Estelle Laurent, vous êtes doctorante en géographie sociale à l'université de Rennes 2. Cette projection débat, elle est gratuite, même plus besoin de réserver puisqu'une grande salle vous attend. Et pour plus d'infos, il y a le site internet thèseenimages.org ainsi que des comptes sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bismillah nyongi dor si penchu mei jubali wari abdu kafe kafe su khol mi sore la su kafe laina pole khoron pole kuko gala ye mu fare fajar ye mu kafe do mu jara kendu ko kafe
Tassou Café par Saad, c'était le choix musical d'Estelle Laurent et Suzanne Lemaréchal qu'on vient de recevoir en studio. Un titre à retrouver sur un album, Luma, c'est sorti en 2022 et c'est le deuxième disque pour ce musicien et chanteur sénégalais qui questionne là le vivre ensemble entre la ville et la campagne. Vous écoutez La Reine sur Canal B, une émission qui vous tend son micro si vous avez des actions ou événements annoncés aux auditeurs, que ce soit avec une association, un collectif ou autre type de structure, ça peut aussi être des institutions, tant que ça rentre dans le champ de l'information locale et que ce n'est pas un événement à visée purement lucrative, vous pouvez m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr et après je reprends contact avec vous pour vous proposer une rencontre ici, en studio, sur le terrain, sous forme de reportage, ou on peut aussi l'annoncer sous forme de recommandation du jour. Et il se trouve que c'est l'heure. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des petits conseils de choses à vivre près de chez soi. Régulièrement aussi plutôt des conseils de choses pour se nourrir intellectuellement, à se mettre dans les oreilles, à lire, et c'est le cas aujourd'hui. Je vous recommande le podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. Alors il est connu de beaucoup d'entre vous, je pense, ce podcast. C'est à écouter sur Arte Radio depuis 2017, avec chaque mois un épisode qui mêle intimité et expertise, témoignages et réflexions, pour aborder les questions de genre, de féminisme et d'égalité entre les femmes et les hommes. Le dernier épisode, il date du 10 janvier et nous emmène à la rencontre de gardiennes de musées. Annick, Pascal, Mounia, Laurence sont agentes d'accueil et de surveillance au lieu d'art et action contemporaine de Dunkerque. Elles ont toutes une cinquantaine d'années et ont été reclassées ici suite à des maladies professionnelles après de longues carrières en tant qu'ATSEM dans les écoles, agentes dans les cantines scolaires ou salariées des piscines municipales. Et quand il y a peu de monde au musée, eh bien elles discutent devant les salles d'exposition et se soutiennent aussi et rient beaucoup.
Le plus souvent dans l'histoire, anonyme était une femme.
Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées.
Maintenant, il faut des mots.
Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer.
Et on a commencé cette émission sur le sujet agriculture, on va terminer avec ce même sujet, puisque les deux précédents épisodes du podcast à soi, les numéros 47 et 48, donc pour les mois de novembre et décembre 2023, j'ai eu le plaisir, en les écoutant, de recroiser des paysannes passées sur les ondes de Canal B. Des paysannes en lutte qui se racontent en deux épisodes. Il y a le groupe des ailes de l'association Adage 35, une asso qui défend le système herbager et qui planche aussi sur l'égalité homme-femme, on le comprend. Et en plus de Marie-Edith et de Charlotte, on croise aussi Clémentine Comer, docteur en sciences politiques à Rennes, ainsi que Lucie, paysanne dans une ferme pédagogique près de Rennes, dont je crois bien avoir reconnu la voix. C'est chouette et c'est à écouter sur arteradio.com. Je suis pas assez corporate, moi, à vous faire des conseils de choses à aller écouter ailleurs.
Dans le monde agricole, enfin, je veux dire, la notion de travail, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Il faut qu'on voit le travail qui est fait, quand même, quoi. Il faut que ce soit visible. Et du coup, j'étais en train de me dire que autant j'aime bien m'habiller, tout ça, quand j'ai du temps, quand je vais en réunion, quand je sors et tout ça. Mais autant, j'adore aussi aller en vêtements de boulot dégueulasses dans des magasins ou dans des trucs comme ça. Parce que ça fait travailleuse, quoi. On voit que j'ai travaillé. Parce que souvent, dans une ferme, les mecs, on voit qu'ils travaillent parce que c'est eux qui sont sur le tracteur. Et du coup, c'est ça la symbolique du travail.
C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la Reine. Le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.